La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver au quatrième jour de notre semaine spéciale Maison d'écrivains dans la compagnie des auteurs. Une émission qui vous est proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin et Laurane Travagli-Chanal. Réalisée par Rafik Zénine avec à la prise de son Marcos Darras. Une semaine que nous avons commencé chez Alexandre Dumas au Port Marly dans les Yvelines, dans ce manoir où tout rappelle son œuvre, en particulier les médaillons sculptés et les noms de personnages ou de romans incrustés sur les murs. C'est Claude Chope et Frédéric Lurolle qui nous en ont ouvert les portes. Mardi, c'était une émission en deux parties. D'abord dans la maison de Balzac à Passy avec son directeur Yves Gagneux, puis en studio avec l'historien Éric Hazan. Nous avons parlé avec lui plus largement du rapport de Balzac à Paris. Enfin hier, nous étions à la maison Daudet de Draveil-Essonne, ce qui a été l'occasion de reprendre notamment le parcours biographique de l'écrivain grâce à Anne-Simone Dufief et Isabelle Guignard. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre quatrième et dernière émission, nous partons chez Jean Cocteau dans son moulin de Milly-la-Forêt. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
J'ai eu le sentiment de la liberté après la mort de mon grand-père. En fouillant dans sa chambre, j'avais trouvé une boîte de cigarettes Nazir que j'avais cachée dans ma poche, et je me vois encore fumant une cigarette dans les hautes herbes de la place Sully à Maison Lafitte. Une autre fois, un souvenir aussi bête, nous partions pour la mer et j'avais été, ce qui ne m'était jamais arrivé avant, acheter avec les 4 sous que j'avais dans la poche un journal d'enfants qui s'appelait Le Polichinelle. Bon, voilà deux choses sans importance, mais le fait d'avoir acheté un journal en cachette et le fait d'avoir fumé une cigarette en cachette me reste beaucoup davantage qu'une quantité d'autres souvenirs en tant que liberté. Mon opinion, vous la connaissez très bien, c'est que le grand ressort de la jeunesse et des poètes, des héros, c'est la désobéissance. Puisqu'il s'agit de faire une chose qu'on ne fait pas, de changer les règles du jeu, c'est-à-dire de désobéir à une règle.
Un extrait d'un entretien de Cocteau avec José Pivin en 1961, entretien qui a été enregistré ici, dans cette maison de Milly-la-Forêt dont vous êtes la directrice. Pascal Léauté, bonjour.
Bonjour.
La liberté, ce mot qu'on entendait dans cette archive, c'est le maître mot pour Jean Cocteau, et cela dès son enfance. Est-ce que cette maison pouvait incarner pour lui une forme de liberté, une façon justement de se retirer de Paris ?
Alors, de se retirer de Paris, oui, puisque en fait, il parle de Milly comme d'un cadre qu'il aurait trouvé, comme un refuge, loin des sonnettes du Palais Royal. Et en fait, cette maison, c'était effectivement une manière de retrouver peut-être de la paix, peut-être aussi une certaine liberté de mouvement, puisqu'après... Après le succès de La Belle et la Bête, l'appartement de la rue Montpensier qu'il partageait avec Jean Marais était quand même assailli de fans, de gens qui demandaient sans cesse des choses à Cocteau, qui voulaient partager du travail. Et du coup, Milly-la-Forêt...
Quelques kilomètres de Paris, et donc les fans étaient tenus à distance, c'est ça ?
Voilà, Milly était beaucoup moins accessible que la rue Montpensier. Enfin, on est à plus d'une heure de Paris, c'est vrai qu'ici, il vivait en liberté, tranquillement, au milieu des Milly-a-Quois. Voilà, il était tranquille, c'est ça.
Au milieu des Milly-a-Quois, ça veut dire participant à la vie du village, de cette petite ville, ça veut dire se fondant réellement dans la population ou gardant tout de même la distance qui sciait à la star qui était réellement
pas exagéré non plus. De toute façon, Cocteau ne venait principalement le week-end. Mais il avait tout de même ses habitudes à Milly-la-Forêt. Votre archive parle d'un journal pour enfants. Et en fait, ici, il avait ses petites habitudes à la maison de la presse. Il allait acheter le journal de Mickey qui paraissait tous les mardis au bureau de presse de Milly-la-Forêt en demandant bien aux buralistes de ne pas en parler puisque c'est un journal pour les enfants.
Il y a quelque chose de très enfantin chez Cocteau et qui lui restera toute sa vie. C'est l'une des caractéristiques de Jean Cocteau et peut-être d'un certain nombre de ses œuvres aussi.
Oui, nous sommes dans le salon, vous pouvez voir que ce salon, il est plein de figures animalières, les arts du cirque, enfin oui, Cocteau, c'est un grand enfant.
On dirait presque une pièce des enfants terribles, vous pouvez nous la décrire, cette pièce pleine de statues, pleine de meubles un peu baroques, avec ce grand tapis, les disques posés par terre.
Oui, alors là, nous sommes donc dans la pièce principale de la maison, qui est donc restée en l'état depuis la mort de Cocteau, puisque ça a été fermé par son compagnon Édouard d'Hermite à sa mort. Vous avez donc la décoration qui est due en grande partie à Madeleine Castin, la diva de la décoration. Et on a cette tapisserie assez chargée au mur, des tentures en velours qui encadrent les trois portes-fenêtres qui donnent sur le jardin, et une quantité assez impressionnante d'objets, beaucoup d'animaux, et beaucoup également d'objets chers à Cocteau qui lui ont été apportés par des amis, offerts par des amis. Ici, vous aviez Picasso, Bérard qui venaient régulièrement. Le petit jazzman qui est sur l'énorme radio de Cocteau. Le jazzman lui a été offert par Jean Marais. Vous avez également au-dessus de la cheminée cet énorme soleil en bois doré qui lui a été offert par Coco Chanel, qui, on le sait peu, a été une de ses mécènes également. Et puis, encadrant la cheminée, vous avez les deux biches chinoises dont on parle dans l'archive, qui en fait lui ont été offertes par une autre de ses mécènes, Francine Vesveler.
Alors vous trouvez, Serge Linares, bonjour, qu'on pourrait,
bonjour,
ici dans cette pièce, je le disais un peu baroque, se trouver dans une des chambres des enfants terribles, ensevelis un petit peu sous les objets, parce que les objets c'est aussi des refuges pour les enfants et pour ce grand enfant qui est resté Cocteau toute sa vie.
Alors il est vrai que pour Cocteau, les objets ont une importance capitale, parce qu'évidemment ils concentrent un esprit de poésie. Et alors, ce qui m'a intéressé dans votre archive, précisément, c'est le rapprochement qu'il fait avec la maison de vacances de son enfance, celle de Maison Lafitte, celle du grand-père. Et précisément, ces deux maisons ont des rapports extrêmement forts, me semble-t-il, parce qu'ils, ce sont deux lieux qui, pour Cocteau, ont un rapport étroit avec l'esprit de poésie. Alors, cet esprit de poésie, c'est un retour à l'esprit d'enfance, bien évidemment, mais aussi corrélé au sentiment très profond de la mort qui habite Cocteau depuis l'enfance, depuis le suicide du père, puisque, comme vous le savez sans doute, son père se tire une balle dans la tête en 1898, lorsqu'il a à peine 9 ans. C'est un traumatisme profond, et chez Cocteau, la poésie, c'est précisément la relation directe qui se noue entre l'esprit d'enfance et l'esprit mortifère.
Donc vous êtes venu ici bien avant que cette maison soit transformée en musée. On parlera tout à l'heure avec vous de la manière dont cette maison a été transformée en musée, Pascal Léauté. Mais vous, Serge Linares, vous êtes venu ici quand elle était encore habitée par celui qui était le dernier compagnon de Jean Cocteau, Édouard d'Hermite. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre venue ici et l'atmosphère qu'il y avait dans cette maison du temps où elle était finalement encore plus qu'aujourd'hui dans son jus? Je parle ici de cette pièce qui est une pièce qui a été laissée comme telle, je crois, ou à peu près, par Jean Cocteau. Racontez-nous un petit peu votre venue.
Oh, j'en dirais deux mots. Voilà, j'étais en thèse et effectivement, Édouard d'Hermite m'avait très gentiment permis de consulter certains documents qui étaient ici conservés. Donc je me suis rendu dans la maison dans les années 90, quelque temps avant la mort d'Édouard d'Hermite. Et en l'occurrence, en arrivant, ce qui m'a surpris quand même, c'est le sentiment d'être dans un lieu comme endormi, une sorte de château de la Belle au Bois Dormant.
Parce qu'on est à côté du château de Milly aussi.
On est à côté, on a une vue directe direct sur le château de Milly.
Une atmosphère tout à fait particulière.
Voilà, il y avait certains de ces objets ici présents, donc tout ce bestiaire très étrange. Et puis bien sûr, ce qui m'a beaucoup étonné en arrivant, que je ne soupçonnais pas avant ma venue ici, c'est ce mélange de baroque et d'esprit classique. Qui est caractéristique, je crois, de l'œuvre de Cocteau, de son œuvre littéraire, de son œuvre plastique aussi. En l'occurrence, Cocteau, si on essaie un petit peu de ramener notre visite à des questions d'esthétique, eh bien, ce qui caractérise Cocteau, c'est qu'il arrive à synthétiser le baroque, le symbolisme qu'il a pu connaître, donc, au début de son existence, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, dans ses premiers recueils poétiques, notamment Le Prince frivole, La Lampe d'Aladin pour le premier en 1909, Le Prince frivole, La Danse de Sophocle, dans laquelle précisément il est totalement inspiré par l'esprit fin de siècle, le bric-à-brac, qui est caractéristique des maisons de l'époque. Et alors précisément, peut-être qu'on pourrait faire un rapprochement avec un livre d'Edmond de Goncourt qui s'appelle La maison d'un artiste. Et ce livre-là est intéressant. Pourquoi ? Parce que dans La Maison d'un artiste, Edmond de Goncourt parle de ce goût qu'ont les écrivains de la fin du siècle pour les maisons dans lesquelles ils vont en quelque sorte réunir leur collection. Alors il diagnostique un petit peu ce qui, selon lui, explique ce goût des écrivains pour un lieu domestique chargé de poésie. Et il y voit une manifestation d'une sorte d'angoisse de l'histoire. Mm-hmm. Les écrivains de l'époque se sentent en quelque sorte mal à l'aise dans la société de leur temps. Et ils vont créer autour d'eux comme une sorte de coquille dans laquelle ils vont rassembler les œuvres qui aimantent leur imagination. Alors évidemment, on pense aux des Essaintes d'Arbour. Et puis, il y a un mot qu'utilise Edmond de Goncourt qui me semble-t-il, caractérise très bien cette pièce. Il parle de du bric-à-brac, la bric-à-bracomanie, c'est son terme, caractéristique de sa maison à lui, Edmond, mais qu'on pourrait totalement appliquer à la maison de Cocteau. Ce bric-à-brac d'objets dans lesquels, évidemment, le poète investit son goût pour la poésie, ses fascinations en fait pour l'autre monde, l'outre-monde pourrait-on dire.
Et vous, Pascal Léauté, vous avez la chance de vivre dans ce bric-à-brac poétique. Est-ce que vous avez parfois ce sentiment d'être dans un livre de Huysmans quand vous êtes dans cette pièce, qui est une pièce où le mot d'esthétique prend tout son sens, j'ai l'impression?
Oui, c'est un bric-à-brac, et c'est surtout, je pense aussi, de la part de Cocteau, une absence de volonté de faire le tri, peut-être. C'est-à-dire que, voilà, il y a plein d'époques, plein de moments de sa vie qui se rencontrent, qui s'entrechoquent, et effectivement, on se retrouve avec des figures animalières, des sculptures, des antiquités chinoises, des tapis persans, des tapis d'Aubesson. Et il n'y a pas de volonté de structurer la décoration. C'est-à-dire que Madame Castaing a donné sa patte, mais Cocteau a fait le reste.
Donc il y a une immense liberté, on revient à ce mot de liberté quand on parle de Cocteau dans la décoration, mais c'est vrai qu'on dépasse ici simplement la décoration, on est vraiment dans la poésie, hein, Serge Linares, vous le disiez à l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la modernité précisément dans ce syncrétisme des époques? Est-ce que ce n'est pas une manière d'envisager l'art qui n'est pas nouvelle pour l'époque de Cocteau et qui n'annonce pas d'autres artistes, encore une fois, très libres avec les époques et avec les styles. Serge Linares, peut-être pour commencer.
Oui, alors peut-être que l'on pourrait faire des rapprochements avec une sorte de post-modernité, hein, parce que je sens que c'est le terme qui vous venait à l'esprit. Peut-être, mais alors ce serait une post-modernité véritablement du XXe siècle, en l'occurrence. Je crois que surtout Cocteau a vécu avec le traumatisme de cette adolescence prodige qui a été la sienne, à savoir qu'il a été célébré par le tout Paris, notamment au Théâtre Fémina, en 1908, le voilà célébré par le tout Paris. Ses poèmes sont lus par les plus grands comédiens du français.
De Max,
entre autres. Une conférence de Laurent Taillade, etc. Et pour lui, ça a été une véritable catastrophe. Parce que, au bout du compte, ce succès l'a privé d'un destin à la Rimbaud. Mm-hmm. Il a été trop vite célèbre et il a fini par renier précisément ses œuvres.
Or, c'est pas la même personnalité que Rimbaud, quand même.
Non, mais ce que j'essaie de vous expliquer par là, c'est que il en restera quelque chose de cette première œuvre. Dans la suite, Cocteau, à partir de 1913, donc, va en quelque sorte tourner kazakh, se convertir au modernisme. Et à ce moment-là, il va de loin en loin, rendre hommage à cette époque qui l'a pétri, qui l'a nourri dans son adolescence, son enfance et son adolescence. C'est la raison pour laquelle il y a ce caractère un peu hétéroclite, que vous soulignez tout à l'heure. Effectivement, il a ce sens de la synthèse. Il arrive à synthétiser plusieurs esprits par un style extrêmement ferme, des principes classiques appliqués finalement à une matière très hétérogène et une matière qu'on pourrait dire post-symboliste.
Mais c'est peut-être ça qu'il a aussi desservi, ce pauvre Jean Cocteau, à qui on a peut-être reproché justement son syncrétisme. On lui a peut-être aussi reproché de faire du cinéma, mais aussi des dessins, mais aussi évidemment de la littérature, mais aussi du théâtre. Il est un peu trop partout, Jean Cocteau, et ça, est-ce que ça ne l'a pas desservi, cette trop grande liberté, Serge Linares?
Ah oui, il est certain que de son vivant, il a été très mal perçu, précisément parce qu'on considérait qu'il était un touche-à-tout. Aujourd'hui, je crois que c'est ce qui fait sa force. Il arrive à toucher les nouvelles générations, précisément par son caractère multimédial. Et en l'occurrence, il s'y montre à chaque fois pertinent, percutant, novateur.
Partout, y compris quand il dessine, par exemple.
Alors tout dépend, il y a des périodes qui sont d'une intensité poétique très forte, on peut parler des années 20 ou des années 30. Il est vrai que dans les années 50 et au début des années 60, juste avant sa mort, bien Cocteau, en quelque sorte, va produire toute une série de portraits d'Orphée dont on va finir par être lassé et qui ne sont pas le meilleur de son œuvre. Mais il y a dans son œuvre graphique des productions de haute qualité, et en l'occurrence ici à côté de Milly, vous avez bien sûr la chapelle dans laquelle il est inhumé, qui est ornée de fresques qu'il a réalisées en 1950-60. Et alors vous avez notamment un petit personnage qui apparaît dans la chapelle qui plaît normalement aux enfants, c'est un petit chat. Qu'il a placé sur le côté, un petit chat un petit peu raidi comme ça, qui nous regarde avec de grands yeux. Vous parliez tout à l'heure de l'esprit d'enfance de Cocteau, et bien précisément là on en voit la manifestation, une sorte de clin d'œil. Alors il se trouve que Cocteau a été inhumé dans cette chapelle, désormais c'est en quelque sorte un mort qui nous fait un clin d'œil par cet intermédiaire.
Pascal Léauté, parlons peut-être un petit peu de la personnalité de Jean Cocteau pour essayer de continuer ce portrait que l'on fait ici dans sa maison, dans une de ses maisons. On reviendra peut-être aussi sur ce point-là. On a l'impression de bien le connaître, Jean Cocteau, mais en réalité, c'était quand même quelqu'un d'assez pudique. Est-ce que vous diriez qu'il s'est adonné finalement à l'autobiographie, ou est-ce que au fond c'est quelqu'un qui s'est beaucoup caché? Quel est votre sentiment là-dessus?
Je ne sais pas si on peut qualifier de pudique quelqu'un qui a publié autant, enfin dont on a publié autant de correspondances tout de même. C'est un personnage public, c'est un personnage qui s'est beaucoup montré.
Est-ce que ça ne cache pas précisément une grande pudeur? C'est une question que je pose, Serge Linares, quel est votre avis par exemple là-dessus?
Alors, je pense que Cocteau était assez exhibitionniste. Mais comme il le disait lui-même, le poète est un exhibitionniste au pays des aveugles. Donc, en quelque sorte, ce que l'on a vu de lui, c'était une image publique dans laquelle il ne se reconnaissait pas. Alors même qu'il ne cessait d'étaler dans son œuvre, notamment littéraire, des personnalités multiples qui le constituaient et qui étaient autrement plus profondes. Et d'ailleurs, rappelez-vous la séquence du Testament d'Orphée, dans laquelle il se rencontre lui-même, dans la rue obscure de Villefranche-sur-Mer. Il rencontre le Cocteau mondain, qui ne le salue pas. Et évidemment, cela le choque profondément de voir qu'il n'a même pas été salué par lui-même, parce que tout simplement, il vit dans le divorce avec ce personnage public.
Et il dit quand même, ni dans l'éloge, ni dans le blâme, je ne rencontre la moindre tentative de démêler le vrai du faux, donc sa personnalité qui était devenue légendaire, et en effet exhibitionniste dans ce sens-là, était loin d'être la personnalité que lui-même considérait comme le noyau de son être, ou alors, peut-être ne connaissait-il pas lui-même même le noyau de son être, et peut-être a-t-il cherché justement qui il était, Jean Cocteau, durant toute sa vie.
Vous avez parfaitement raison. Effectivement, l'œuvre de Cocteau, c'est une quête sempiternellement reconduite de sa propre identité. Je parlais tout à l'heure du suicide du père, qui était particulièrement marquant pour lui. Et en l'occurrence, Cocteau a complètement changé sa vision de la poésie, considérant par la suite qu'elle était une vocation à la mort, au moment où il s'est en quelque sorte remémoré le suicide du père. Nous voilà en 1913. Il est chez Jacques-Émile Blanche, peintre amateur, ce qui lui rappelle que son père lui-même a été peintre amateur. Mmh. Et en l'occurrence, dans leurs conversations, il parle énormément de la mort, et Cocteau va basculer, il va être pris par le vertige mortifère qu'il, d'une certaine façon, repousse depuis des années, qu'il masque derrière une frivolité d'emprunt. Et il écrit un livre, il écrira d'abord donc tout un livre qui s'appelle Le Potomac, et c'est un livre, en fait, qu'il considère comme sa préface. Après quoi, précisément, il va renier ses trois premiers recueils, les recueils de poètes prodiges qui lui avaient valu tant de succès mondains. Ce livre-là est très singulier, puisqu'il est constitué de textes, certes, mais à l'origine de ce livre-là, il y a du dessin. Mmh. Il y a un dessin de personnage qui s'appelle... Ce personnage s'appelle Lejeune, c'est-à-dire le prénom de son grand-père. Rappelez-vous l'archive que nous avons entendue tout à l'heure, dans laquelle il nous raconte ce goût du fruit défendu qu'il a gagné au moment de la mort de son grand-père Eugène, précisément. Le tabou était brisé, cette figure paternelle de substitution donc est disparue. Ben, Cocteau, en quelque sorte, peut se livrer à des plaisirs interdits. Et bien, précisément, il donne ce prénom, vous voyez, à ce personnage qui détermine absolument le revirement complet de son œuvre. Mmh. Et à partir de là, Cocteau considère qu'il doit traquer les multiples identités qui le constituent.
Mais donc c'est l'histoire de sa vie, ça, pour caricaturer.
C'est la grande leçon de la modernité. Rappelez-vous ce que dit Rimbaud, je vais un autre. Eh bien, Cocteau l'a pris en quelque sorte au pied de la lettre. Il fallait à chaque œuvre qu'il reparte à sa recherche, à sa propre recherche, constatant bien évidemment que son identité était fluctuante, ondoyante et qu'elle était multiple. C'est la raison pour laquelle il ne cesse de passer d'un véhicule à l'autre, d'un médium à un autre, parce qu'il considère qu'il doit traquer les multiples personnalités qui le constituent. Mmh. Et puis, il y a un autre élément dont nous n'avons pas parlé qui est capital, c'est que pour Cocteau, se confronter à soi, c'est se confronter en fait à ce qui dépasse l'identité. C'est-à-dire, bien évidemment, à notre vocation à la mort, ce que Cocteau identifie au personnage de l'ange. L'ange intérieur que nous logerions chacun, c'est précisément la mort qui nous attend. Et donc, ce qui va nier totalement notre identité.
Alors Pascal Léauté, ces petits dessins des Eugènes, je crois que vous en avez une collection absolument fantastique ici à la maison Cocteau de Milly-la-Forêt.
C'est exact. D'ailleurs, ils ont été exposés il y a 2 ans lors d'une exposition sur la période 14-18.
Ils ont été écrits dans les marges du Potomac, c'est ça?
Non, ça fait partie intégrante du Potomac en fait. Hein. C'est d'ailleurs, il y a plus de dessins, pour les gens qui ne connaissent pas l'ouvrage, plus de dessins que de textes. Hein. Les Eugènes, c'est une œuvre engagée, c'est une œuvre réfléchie de Cocteau. Il commence à faire ça en 1913, avant en fait, avant l'engagement des Allemands dans la Première Guerre mondiale. Et on voit tout de suite ces casques à pointe. Enfin, tout de suite, on visualise. Ce que Cocteau a voulu faire de ses dessins.
C'est des petits personnages qui ressemblent presque, alors de manière anachronique, Shadok, hein. À des Shadocks.
Ouais, hein. C'est l'analogie que tout le monde fait en fait. C'est effectivement, je pense que les Shadocks sont inspirés des Eugènes. Oui. Mmh.
Je vous propose d'écouter une nouvelle archive de Jean Cocteau.
J'habite presque en face de Villefranche. Alors Villefranche est devenue pour moi non pas un endroit où je vis, mais un spectacle. C'est comme si je regardais ma jeunesse. J'ai toujours travaillé à Villefranche. Beaucoup de mes œuvres y ont été écrites. Et beaucoup de mes camarades qui sont morts, Christian Bérard, y ont vécu, y ont travaillé avec moi. Ce qui fait que la Côte d'Azur est pour moi non seulement la splendeur que vous savez tous, mais aussi toute une amalgame de rêves, de souvenirs très chers, de tendresse et de travail. En réalité, je ne me cache pas, parce qu'il est très ridicule pour un homme de dire qu'il se cache, mais je me dissimule comme les lézards que je vois tous les jours et qui prennent presque la couleur des pierres. J'aimerais prendre la couleur de la Côte d'Azur, d'abord parce qu'elle est très belle, et ensuite parce que je serais moins visible qu'à Paris, où la visibilité nous met dans un perpétuel sentiment de vedette, ce qui est très ridicule pour un homme qui aimerait vivre pour lui-même et pour son œuvre. Je suis peu à peu devenu le fantôme d'un personnage qu'on m'a fait, que je ne suis pas et que je n'aimerais pas connaître. Et si je suis revenu sur la Côte d'Azur, c'est pour vivre un peu avec moi, apprendre à me connaître et à me détester moins que je ne me déteste quand je me vois au dehors, dans les journaux,
Alors nous, on n'est pas sur la Côte d'Azur, on est bien à Milly-la-Forêt, mais cette archive qui date de 1952 montre bien qu'au fond, Jean Cocteau a été, et y compris du temps où il avait cette maison, Pascal Léauté, on va peut-être raconter à quel moment il l'a acheté et dans quelles circonstances. Il était ici, mais il était aussi sur la Côte d'Azur, puis il était aussi un petit peu partout en voyage. Il était à Paris également. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes maisons de Jean Cocteau ou des différents lieux de vie?
Oui, des lieux de vie, puisqu'en fait, il avait principalement l'appartement rue Montpensier à côté du Palais Royal, dont il était voisin de Colette.
Il se voyait beaucoup ou c'est une légende?
Non, on a beaucoup de photos quand même. Non, il se voyait. Et bien sûr, cette maison à Milly-la-Forêt qu'il a achetée en 1947 avec Jean Marais.
Alors pourquoi ici, vous savez?
Oui, pourquoi ici? D'abord parce que c'est un lieu qui était accessible en bus. Cocteau n'avait pas le permis. Cocteau n'avait pas le permis. Voilà. Donc c'était important de pouvoir se rendre dans sa maison tout seul.
Il n'avait pas le permis.
Mais Jean Marais n'était pas toujours avec Jean Cocteau. D'ailleurs, ils ont acheté cette maison en 1947 et ils se sont séparés en 1948. Séparés en très bons termes. Hein. Marais a continué à venir fréquemment à Milly-la-Forêt jusqu'à la fin de la vie de Cocteau. Ils sont restés très liés et très bons amis. Et cette maison a été trouvée en fait par le secrétaire de Cocteau, Paul Morien. Ils sont venus la visiter tous les trois, voilà, la nécessité des travaux. Il a commencé à l'habiter en 1948. Et il y a effectivement, dans le sud, surtout à partir de cette époque-là, principalement la Villa Santo Sospir, enfin, où Cocteau est allé en résidence pour se reposer à l'invitation de Madame Vesveler. Et il a finalement commencé à dessiner au-dessus de la cheminée une fresque à tempéra. Et il a rendu réel l'adage de Matisse, à savoir que quand on commence à dessiner sur les murs, on ne peut plus s'arrêter. Il a tatoué intégralement la villa. Et c'est vrai que c'est un endroit où il est allé tous les étés pendant très très longtemps. Voilà.
Oui, c'est ça, au fond, Serge Linares, cette maison, il y a d'abord habité un petit peu au moment de son achat avec Marais, et puis finalement, il va être happé comme ça par la Côte d'Azur.
Cocteau passe l'essentiel de son temps dans le sud de la France à partir des années 50, tout simplement parce qu'il y est accueilli par Francine Weisweiler, sa mécène. Il revient à Paris, bien sûr, il a toujours cet entresol du Palais Royal, devenu désormais mythique. Et puis, il se rend dans cette maison sur laquelle il a écrit, assez peu, c'est vrai, mais en 1962, il publie un texte en Suisse, à Zurich, qui s'appelle « La maison du poète ». Oui. Hein, vous voyez, après « La maison d'un artiste » d'Edmond Goncourt, ben, vous avez « La maison du poète » de Cocteau. C'est très intéressant parce que dans ce texte-là, précisément, Cocteau évoque bien sûr la maison de Milly-la-Forêt. Il en détaille les objets. Il faut mettre cela en relation avec le dernier texte romanesque que Cocteau ait publié, à savoir « La fin du Potomac » en 1940, dans laquelle il va décrire, dans une section qui s'appelle « L'appartement des énigmes », les différents domiciles qu'il a pu occuper avant de s'installer avec Marais près de la Madeleine et puis ensuite durant l'occupation donc au Palais Royal. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que dans ce chapitre, l'appartement des énigmes, il va gloser sur les objets qui constituent son univers et dans lesquels il estime qu'il y a une charge poétique intense. La maison doit être hantée. Et elle n'est pas hantée parce qu'elle a une architecture particulière, elle est surtout hantée par les objets qui viennent, comme poussés par des vagues successives, échouer donc dans son univers poétique. Ces objets, pour lui, représentent quelque chose. Il les décrit dans l'appartement des énigmes, comme il les décrira dans la maison du poète, donc dans son texte sur cette maison de Milly-la-Forêt.
Et alors, il a aussi cette phrase assez étonnante, je crois que c'est dans La difficulté d'être, il parle de cette maison en disant « cette maison qui m'aime ». Est-ce que c'est parce qu'elle est hantée que la maison est capable d'aimer son propriétaire, Jean Cocteau en l'occurrence, Serge Linares?
Alors j'ai envie de vous répondre en vous citant une phrase de Cocteau, « Ne hante pas sa maison qui veut ». C'est précisément dans une section de La difficulté d'être, publiée en 1947, où il évoque pour la première fois la maison de Milly-la-Forêt qu'il vient d'acquérir. Eh bien, dans ce texte-là, il parle des domiciles qu'il a précédemment occupés, et notamment le 9 rue de la Vignon, dans laquelle finalement appartement dans lequel la charge poétique est devenue tellement intense qu'il a dû la fuir. Pour Cocteau, il y a eu les décennies précédentes, toute une série d'errances. Donc, depuis le domicile maternel, qui quitte à un moment donné, jusqu'à toutes ces chambres d'hôtel qu'il a pu occuper successivement, ces appartements, donc, occasionnels. Et en fait, il ne va s'installer dans un appartement qu'avec Jean Marais. Et jusque-là.
Ce sera un point fixe, alors.
Oui, ce sera un point fixe, mais précédemment, il y a eu le Palais Royal, qui devient véritablement, donc, un lieu dans lequel il va créer avec Marais une œuvre à deux, pourrait-on dire, où il se pose et il a le sentiment, en quelque sorte, de s'arrimer et de se constituer véritablement. Mais précédemment, c'est une série d'errances qui vont de pair, bien sûr, avec la vie désorganisée qui est la sienne jusque-là. Et ce désordre de sa vie, eh bien, finalement, il en est lassé. Il a l'impression de devoir subir un sort particulier qui est celui d'être un éternel déserteur de lui-même, parce qu'il est traqué par ces vertiges mortifères dont je parlais tout à l'heure, par les histoires qui environnent son personnage, etc., les passions qu'il déchaîne, les morts qui s'accumulent, puisqu'il va subir toute une série quand même de deuils successifs.
Mais quand il parle de la Côte d'Azur, il parle aussi de la mort de Bérard, c'est-à-dire que le lieu est toujours associé à la vie, la mort et l'affect de ce qu'il a vécu dans le lieu dont il parle.
Vous avez parfaitement de raison, mais je crois qu'à partir des années 40, donc à partir du Palais Royal, puis cette maison, et enfin donc ces séjours solaires sur la Côte d'Azur, Cocteau trouve une forme de sérénité. Et je crois que cette maison-là respire encore ce calme qu'il a pu rencontrer et qu'il a apaisé.
Pascal Léauté, vous qui dirigez la maison hantée, qu'est-ce que vous voudriez rajouter sur la couleur finalement de ces années passées, donc en partie ici, aussi beaucoup sur la Côte d'Azur?
Pour Milly, on parle d'un calme, on parle d'un cadre, effectivement, parce que Cocteau, ici, quand il parle de la maison et de ses séjours à la maison, il en parle toujours de façon joyeuse, de façon détendue. Il parle de ses promenades dans la Garenne. Est-ce que vous avez vu cette maison, enfin, cette grande propriété, puisqu'on a 2 hectares de terrain. Au bout de la propriété, au bout du parc, puisqu'il y a un énorme bois, c'est ce qu'on appelle la Garenne, c'est-à-dire c'est la fin de la mégalopole de l'Île-de-France, mais la fin, vraiment, on est dans la campagne. Donc, il faisait des balades régulières avec son éternel le peignoir blanc.
Et puis il y a le jardin aussi devant qui est très beau.
Il y a le jardin avec ce verger de pommes anciennes, les douves du château. Là, on n'a pas eu l'occasion, vu que le temps ne le permet pas, mais la propriété est entièrement traversée d'eau. C'est-à-dire qu'il y a les douves du château et ensuite il y a des canaux d'irrigation, ce qui fait que quand il fait beau, toute cette eau, c'est autant de miroirs et on sait que les miroirs sont chers à Cocteau.
Là, sous les fenêtres de ce grand salon, il y a un bassin d'eau gigantesque.
Ce sont les douves du château, voilà. Et la propriété est entièrement quadrillé d'eau.
Donc c'est une propriété extrêmement grande. Peut-être que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette maison après la mort d'Édouard d'Hermite, donc le dernier compagnon de Cocteau, puisque cette maison a été transformée, on en a fait un musée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'elle est devenue, Pascal Léauté?
Oui, bien sûr. Alors, à la mort d'Édouard d'Hermite, sa femme y a vécu quelques années avec son fils aîné, qui est décédé à son tour. Et ensuite, c'est Stéphane d'Hermite qui en a hérité, qui est parti lui vivre dans le sud aussi. Et la maison est restée effectivement quelques années un peu à l'abandon. Et le projet a mûri dans la tête de Pierre Berger. Il en avait d'ailleurs fait la promesse à Édouard d'Hermite de transformer cette maison en un lieu de mémoire, en hommage à Jean Cocteau.
Donc la proximité Cocteau-Berger, l'amitié entre les deux, elle est réelle, ou est-ce que finalement elle a été ensuite peut-être un petit peu reconstruite? Quel est votre avis à vous personnellement là-dessus?
C'est pas un avis personnel. Pierre Berger, ne se présentait pas comme un éternel ami de Cocteau. Il l'a côtoyé, bien sûr, rencontré. On a notamment une photo d'eux chez Buffet à Château d'Arc, mais ils ne se sont pas énormément côtoyé en fait.
D'ailleurs, il peut être assez dur, Serge Dinarès, je crois, dans son journal sur Pierre Berger dans les années 50, n'est-ce pas?
Oui, bon, il y a quelques pics dans le journal, effectivement. Ce qui est intéressant dans cette relation, c'est qu'à travers Berger, ce que voit Cocteau, finalement, ce sont les artistes qui l'environnent. Ça a d'abord été Bernard Buffet, et Cocteau a écrit sur Bernard Buffet lorsque Bernard Buffet était vraiment au sommet de sa gloire, est considéré comme un grand peintre. De même, Cocteau sera très intéressé par l'aventure d'Yves Saint-Laurent et il est assez aimanté par ce personnage étrange qu'était Yves Saint-Laurent. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu une fascination particulière pour Pierre Berger, mais plutôt en fait pour les artistes qu'il a pu, avec lesquels il a pu vivre.
Alors je vous propose de poursuivre la visite de cette maison et de monter à l'étage où se trouve à la fois le bureau et la chambre de Jean Cocteau. Pascal Léauté, dans le bureau de Jean Cocteau, on va le décrire, mais peut-être d'abord parler un tout petit peu de l'atmosphère ici qui est tout à fait particulière. Comment est-ce que, pour quelqu'un qui n'a pas les yeux là où nous les avons, c'est-à-dire sur les murs et sur ces meubles là aussi baroques, comment décrire cette pièce ?
On pourrait la comparer à un boudoir. Il y a une tapisserie léopard qui recouvre intégralement les murs et le plafond. Des tentures aux motifs végétaux qui recouvrent aussi, qui encadrent une porte-fenêtre qui donne sur le jardin. Et puis un amoncellement, encore une fois, d'objets, de peintures, d'objets du quotidien également, hein, puisque je vous ai dit que Cocteau ne fait pas forcément le tri. On trouve traces de Cocteau partout, à tout endroit de son bureau. Des livres, bien sûr, de la presse, du matériel pour écrire, pour dessiner.
Et c'était évidemment ici qu'il a pu travailler, Serge Linares. Alors on a dit qu'il n'était pas forcément très souvent ici, mais est-ce que vous savez ce qui a été écrit, du moins en partie, dans cette maison ?
Alors Cocteau a beaucoup dessiné dans cette maison sur une table d'architecte.
Plutôt dessiné qu'écrit alors ?
Non, il a aussi écrit, mais il a beaucoup dessiné. Pour ce qui est des écrits, il a mis au point le Requiem, qui est son dernier grand recueil, qui est publié en 1962. Livre précisément qui a à voir bien sûr avec cette approche de la mort, qui l'avait déjà un peu frappé, puisqu'il avait subi un infarctus. Et en l'occurrence, Cocteau a repris le texte, puisque c'est sur son lit d'hôpital qu'il avait commencé à écrire ses poèmes, qui lui étaient en quelque sorte donnés. C'était toute une série de hiéroglyphes, presque illisibles. Il a dû évidemment les mettre au net, les retravailler, etc. Et ça a donné matière donc à un de ses plus beaux recueils.
Quel jugement vous portez sur les dernières années de production littéraire de Cocteau ? Dernières années, disons les 17 dernières années, puisque il a possédé cette maison pendant 17 ans. Alors choisissons arbitrairement ces 17 années-là. Est-ce que c'est le plus grand Cocteau littérairement, ou est-ce que au contraire on est dans une période qui vous semble moins intéressante ?
Ah non, je crois que c'est une période tout à fait fascinante. Alors, je ne dirais peut-être pas cela sur le plan graphique. En revanche, pour ce qui est de l'œuvre littéraire, elle est d'une intensité très forte. Alors, c'est vrai que du point de vue théâtral, la dernière grande œuvre s'appelle Bacchus. C'est un chef-d'œuvre, hein, c'est très peu monté. Et puis, Cocteau, donc, n'écrira quasiment plus pour le théâtre. En revanche, il y a un retour de flamme poétique qui s'exprime dans différents recueils, dans Clair-obscur ou dans le Requiem pour terminer. Il y a aussi tout un volet de sa production qui tourne autour de sa propre personne, à savoir donc une œuvre autobiographique qui n'est pas sans rapport avec la maison ou avec les maisons dans lesquelles il se trouve dans ces années-là. En l'occurrence, tout commence avec La difficulté d'être, publié en 1947. Et puis, il y aura toute une série de textes dans lesquels, évidemment, il se met au centre, finalement, d'un dispositif où il s'examine à travers toutes les multiples images qu'il a pu donner de lui-même au fil du temps. Et puis cela aura des incidences, y compris sur l'œuvre cinématographique, puisque sa dernière œuvre cinématographique, c'est Le Testament d'Orphée, dans laquelle il fait en quelque sorte une sorte d'autofiction cinématographique. C'est un genre quand même, me semble-t-il, assez nouveau.
Alors on va revenir sur le cinéma, mais peut-être un mot sur La difficulté d'être, qui n'est pas forcément un des textes les plus connus de Cocteau. On va d'abord écouter une archive sur ce texte-là.
Je ne suis ni gai ni triste, mais je peux être tout l'un ou tout l'autre avec excès. Dans la conversation, si l'âme circule, il m'arrive d'oublier les chagrins que je quitte, un mal dont je souffre, de m'oublier moi-même, tant les mots me grisent et entraînent les idées. Elles me viennent bien mieux que dans la solitude, et souvent, un article à écrire m'est un supplice, alors que je le parle sans effort. Cette ivresse de la parole laisse entendre que je possède une facilité que je n'ai pas, car aussitôt que je me contrôle, cette facilité cède la place à un travail pénible, dont la côte me semble à pic et interminable. Il s'y ajoute une crainte superstitieuse de la mise en marche, que j'ai toujours peur de mal engager. Cela me donne une paresse et rassemble à ce que les psychiatres appellent l'angoisse de l'acte.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Voilà donc pour cet extrait de La difficulté d'être, lu par Cocteau lui-même. C'était dans le cadre d'un entretien avec André Frégnaud en mai 1951. Alors Serge Dinarès, cette maison, vous avez dit tout à l'heure que c'était le lieu de l'apaisement des dernières années de sa vie, mais on dirait à l'entendre que c'est surtout le lieu de la difficulté d'être. Et la difficulté d'écrire aussi.
Oui, mais tout cela va de pair, en fait. Cocteau est un être pétri de contradictions. Et en l'occurrence, il va constamment chercher un équilibre qu'il ne trouvera pas entre l'apaisement et l'angoisse. Alors, c'est assez intéressant, cette archive-là, parce qu'on peut penser que Cocteau est d'assez mauvaise foi, parce que quand on voit la production qui était la sienne, elle était considérable. Dans ces années-là, par exemple, il devient une sorte de préfacier pléthorique. Il va écrire des préfaces pour énormément de personnes, tous les gens qu'il sollicite, quelqu'un connu qu'il soit. Il multiplie les tâches.
Il intervient à la radio pas mal aussi.
Il intervient à la radio, il va réaliser plusieurs fresques. On a parlé de la maison de la Villa Santo-Sospir tout à l'heure, mais aussi des fresques pour les chapelles, la chapelle de Milly, la chapelle de Villefranche. Il va orner la salle des mariages de la mairie de Menton, là encore avec des fresques. Donc il y a toute une série de tâches qui l'accablent. Bon. Mais je crois que si on essaie de voir positivement ce qu'il déclare dans La difficulté d'être, il y a du vrai aussi, il n'y a pas que de la mauvaise foi. Parce que tout dépend en fait du degré d'intensité poétique qu'il met dans les œuvres. Il y a des œuvres en fait qui lui sont données, qui le font souffrir. Ces œuvres-là, ce sont des œuvres qui ont en fait une force particulière, il a le sentiment qu'elles lui sont imposées. C'est par exemple L'ange Heurtebise, qu'il écrira après la mort de Radiguet, et c'est une œuvre qui véritablement suscite chez lui une angoisse profonde, parce qu'elle le confronte à ses propres démons. Il y a certaines œuvres donc ainsi qui ont une puissance telle qu'il estime donc venir du surnaturel. Et cette puissance, elle est difficile à vivre, voilà tout. Et puis ensuite, il y a des œuvres écrites, on pourrait dire, de la main gauche, comme ses préfaces, etc., ou ses dessins qu'il pourra réaliser pour se délasser.
Et La difficulté d'être, c'est écrit de la main gauche ?
Ah non, je pense que c'est écrit... Alors là, en l'occurrence, il n'est pas forcément possédé par son démon intérieur ou son ange, comme il le disait lui-même, mais c'est un texte d'une intensité extrêmement forte. Il sort quand même d'une période difficile, pourrait-on dire. C'est l'occupation, c'est après l'occupation, une période tendue dans laquelle, du reste, il n'a pas eu un comportement forcément reluisant, sans être indigne, du reste, mais pas forcément reluisant, quoi qu'il en soit.
Il a rencontré des sommités du régime nazi.
Oui, il a surtout écrit un éloge en fait d'Arnaud Brecker, donc le sculpteur.
Qu'il a rencontré aussi d'ailleurs.
Oui, qui était un ami depuis les années 20, voilà tout. Et pour lui, l'amitié passait au-dessus des patries. Bien, mais par ailleurs, il n'y a pas de fait de collaboration absolu du tout. Donc, quoi qu'il en soit, il sort de là quand même très péniblement affecté par tout cela. Il est aussi assez fatigué. Il a réalisé La Belle et la Bête donc en 45, il sort en 46. L'année 46 est une année très prolifique puisqu'il y aura toute une série de chefs-d'œuvre. En poésie, La Crucifixion. Pour le ballet, ce sera Le Jeune Homme et la Mort qui est une œuvre encore aujourd'hui beaucoup jouée. Et je disais donc La Belle et la Bête, donc qui sera présentée à Cannes en 46. En 47, ce sera La difficulté d'être qui lui permet en quelque sorte de faire un bilan de tout ce qu'il a vécu, alors même qu'il sort donc d'une période chargée de son histoire et de l'histoire en général.
Dernière pièce, Pascal Léauté, de cette maison Jean Cocteau qui reste exactement comme elle l'était du temps où Jean Cocteau y vivait. C'est cette chambre qu'on a sous les yeux. Même chose, alors il paraît que les enfants quand ils viennent ici disent « mais alors le lit est tout petit », c'est la réflexion qui leur vient spontanément. Quel type de réflexion on peut avoir aussi quand on a un enfant de 12 ans et qu'on regarde pour la première fois, qu'on découvre cette chambre de Jean Cocteau ?
Alors, ils sont émerveillés, hein. Ils accèdent à la chambre par le bureau, donc ces deux pièces-là qui en plus sont contiguës, c'est un émerveillement général pour le public et surtout pour les plus jeunes. Ce lit à baldaquin qui
est... Un lit de prince ou de princesse.
Voilà, même. Rose, hein, rose un peu saumonée, mais rose néanmoins avec des passementeries noires. Donc ça, c'est vraiment un choix de Madeleine Castaing, c'est très marqué. Qui est un lit une place, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui en général fait réagir les gens, mais bon, il y avait... plein d'autres chambres dans cette maison. La chambre de Marie était d'ailleurs...
17 chambres, je crois.
Je n'ai pas le compte exact.
Enfin, 17 pièces, plutôt.
Oui, oui, là, c'est quand même une très grande propriété. Et puis, voilà, des souvenirs, des choses quand même assez marquantes, beaucoup d'objets, hein, beaucoup d'antiquités aussi, dans cette pièce. Là-bas, vous avez sur la commode, au fond de la chambre, vous avez le masque mortuaire, une antiquité qui appartenait à son grand-père, et puis la fresque. Vous avez une fresque qui représente un château dans un paysage un peu montagneux en face du lit. Et un personnage qui d'ailleurs ressemble un peu à Jean Marais. Et la fresque est attribuée à Jean Marais. Plus voilà, ce bronze de Gustave Doré qui est le point de départ de La Belle et la Bête. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui parlent de la vie de Cocteau dans cette chambre.
C'est émouvant pour vous, Serge Dinarès, ou à force d'avoir étudié Cocteau dans tous les sens, d'être venu ici il y a longtemps, est-ce que ça a pour vous encore un caractère d'émotion de regarder ce lit à baldaquin de Cocteau et tous ces objets ?
Oui, bien sûr, déjà les objets sont magnifiques. La réunion de tous ces objets me paraît absolument fascinante, hein, même à moi qui en quelque sorte a été pétri de cette œuvre de Cocteau. Mais je vois aussi autre chose derrière cette chambre, en fait. Je vois cet imaginaire de la chambre qui a occupé l'esprit de Cocteau depuis les origines de sa poésie. On pense bien sûr à la chambre des enfants terribles. Mmh. La chambre, c'est vraiment pour Cocteau le lieu de la création.
De Proust, peut-être, où il allait rendre visite à l'auteur de la recherche.
Oui, bien sûr, et on sait que Cocteau a été un des premiers à considérer que Proust c'était un génie. Bon, quoi qu'il en soit, cette chambre, oui, elle représente pour Cocteau le lieu de la création. C'est ce que l'on voit dans Les Enfants Terribles, où ces enfants sont en quelque sorte chambrés, ils sont enfermés dans une chambre qui est une sorte de cocotte minute, qui finit du reste par exploser, hein, et le roman est tragique au bout du compte. Cocteau, lui, à la différence de ses enfants, arrive à créer, il domestique la force poétique. Les enfants, eux, ne savent pas écrire, ne savent pas créer. Ils en meurent, ils se suicident. Cocteau, lui, ne va cesser d'écrire précisément pour échapper à ce destin funèbre qui aurait pu être le sien.
Peut-être terminons, Serge Dinarès, par le cinéma, puisque on le ressent ici, dans cette maison, on la ressent, cette présence du cinéma. Il y a notamment, en arrivant, une grande salle où on projette des films. Quelle est l'importance du cinéma pour Jean Cocteau à cette époque-là, quand il est le week-end dans ces maisons-là ?
Le cinéma, me semble-t-il, est vraiment au cœur de l'œuvre de Cocteau, tout simplement parce qu'il a un rapport compliqué à la photographie. Et comme vous le savez, le cinéma est constitué de photogrammes. Cocteau a un rapport compliqué à la photographie, tout simplement parce que pour lui, la mort de son père, le suicide de son père est lié à un appareil photo détraqué que son père lui avait promis de réparer et qu'il ne réparerait pas. Puisque après sa mort, bien évidemment, cet appareil photo est resté dans l'état où il était. Et pour Cocteau, l'image photographique reste une image liée à la mort, liée au suicide du père. Il le raconte dans Le passé défini, ceci. C'est un des rares aveux dans lesquels, précisément, il est question du suicide du père, parce qu'il y en a très peu. Donc, d'une certaine façon, le cinéma, ça permet de ranimer la photographie. Autrement dit, le cinéma permet pour Cocteau d'atteindre une forme de résurrection. Ouais. Il fait revivre les morts.
Est-ce qu'il y a un lien avec cette maison ou est-ce qu'il n'y en a pas particulièrement ? Parce que finalement, le cinéma l'accompagnait tout le temps.
Alors, je ne sais pas s'il y a un lien, mais aujourd'hui, c'est vrai que nous voyons la maison dans un état un petit peu de pénombre parce que le ciel est gris. Et on a l'impression d'être dans une boîte noire, hein, un petit peu, certes, avec des touches de lumière de loin en loin. Mais il est certain que Cocteau a beaucoup aimé la pénombre. lorsqu'il décrit ces différentes chambres, celles qui en quelque sorte ont orienté sa création, eh bien, il insiste sur les rideaux qu'il fallait tirer. Et dans la fin du Potomac, par exemple, il parle du moment où il y a eu une forme d'intrusion dans sa chambre. La machine poétique s'est détraquée parce qu'on a tiré les rideaux et on a fait entrer la lumière, comme si l'on faisait entrer la lumière dans un boîtier photographique. Donc je crois que Cocteau goûtait à cette pénombre et finalement cette visite est assez cocteauienne.
On va peut-être quitter cette maison et se dire au revoir dans un autre endroit, à la chapelle Saint-Blaise des Simples, où est enterré Jean Cocteau, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres d'ici. Alors voilà, Serge Dinarès, nous y sommes à la chapelle Saint-Blaise des Simples. Alors ça ne fait plus partie de la maison Cocteau, mais c'est sur la commune de Milly-la-Forêt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on fait ici ?
Eh bien, Cocteau a été fait citoyen d'honneur de la commune en 1955. Et on lui a demandé à ce moment-là s'il voulait bien décorer une chapelle, comme il en avait déjà pris l'habitude, puisqu'il a décoré notamment la chapelle de Villefranche-sur-Mer. Cocteau décorera d'autres chapelles, notamment à Londres. Et comme j'ai pu le dire précédemment, il fera des fresques un petit peu partout dans le sud de la France.
Est-ce qu'il était très religieux, Jean Cocteau ?
Disons qu'il avait des inquiétudes métaphysiques.
Voilà.
Mais de là à le penser religieux, il ne faudrait pas aller trop loin. C'est vrai qu'il y a une période où il s'est converti. Enfin, il est revenu au sacrement parce qu'il était déjà baptisé. Donc il est revenu au sacrement après la mort de Radiguet. Vivant une très forte crise, bien sûr, il se met à l'opium parallèlement. Mais c'est vrai qu'à la fin de sa vie, bon, Cocteau revient d'une certaine façon à la religion catholique, sans pour autant sacrifier à tous les dogmes du tout. Mais il a quand même des interrogations métaphysiques qu'il travaille. Et c'est la raison pour laquelle il va apprécier particulièrement la décoration de chapelle. Celle-ci est décorée d'une façon toute particulière, puisque les sujets... hormis une tête de Christ, ne sont pas religieux.
Alors quel effet cela fait d'entrer comme ça, de prime abord, dans cette chapelle, Serge Dinarès ?
Eh bien, les dimensions de cette chapelle sont assez étroites. Hein. Comme vous le constatez, on a l'impression d'être dans un bâtiment carré, très haut. Donc c'est une petite pièce, au bout du compte, surchargée de fresques très hautes. Ce sont des plantes médicinales, puisque devant la chapelle, il y a un jardin des simples. Cocteau a voulu justement rendre hommage à cette pratique médicinale en reproduisant donc sur les murs toute une série de plantes.
Sujet qui n'a pas été imposé, c'est lui qui a eu envie de dessiner ces oui. immenses plantes médicinales dans cette chapelle-là.
Exactement. Je disais tout à l'heure que les sujets religieux étaient vraiment très limités ici. Effectivement, on constate qu'en face, il y a une tête de Christ, et puis au-dessus, on voit le Christ sortant du tombeau. Ce qui domine, bien sûr, c'est tous les motifs végétaux qui entourent la pièce, et puis ces personnages de garde endormis, ce qui donne quand même une dimension un petit peu étrange à cette chapelle. Il y a quand même une dimension érotique assez prononcée, me semble-t-il, avec ces gardes qui fascinaient Cocteau.
En face, ou plutôt devant nous, la tombe de Jean Cocteau, 1889-1963, avec au-dessous de son nom celui d'Édouard d'Hermite, 1925-1995. Et puis cette épitaphe, écrite comme à la main, « Je reste avec vous ».
Oui, véritablement, quand Cocteau imagine sa mort, d'une certaine façon, il imagine qu'il va survivre, évidemment, à sa disparition, et notamment parce qu'il entrera dans la postérité. Cocteau n'a cessé de prendre la postérité pour thème. Dans le testament d'Orphée, par exemple, on le voit ressuscité sous les yeux de Charles Aznavour ou de Picasso ou de Dominguin, qui assiste donc à sa résurrection. Donc c'est vrai que cette formule « Je reste avec vous », énonce bien le rêve de Cocteau, à savoir de passer à la postérité et de ne pas tout à fait disparaître. Alors, comme vous le constatez, dans cette tombe, eh bien, on trouve à la fois le corps de Cocteau tel qu'il a été, il a été placé peu après sa disparition. Il était embaumé. Et puis, Édouard Dermite a voulu le rejoindre aussi dans la mort. Alors même qu'Édouard Dermite s'était marié, a eu des enfants, etc., mais finalement, il a voulu être inhumé à côté de son mentor.
Oui. On n'a pas dit que Jean Cocteau était mort précisément dans la maison qu'on a visitée ici à Milly-la-Forêt. D'ailleurs, peut-être que s'il n'avait pas eu cette attaque ici, il aurait pu être sauvé.
Oui, alors on pense que s'il était resté, notamment à Marne-la-Coquette, aux côtés de Jean-Marie, il aurait pu effectivement être sauvé. En l'occurrence, il venait d'apprendre la mort de Piaf, c'est le 11 octobre 1963. Il témoigne après cette mort et il est pris d'étouffement. Étouffement évidemment qui auront la fin funeste que vous venez de mentionner. Cocteau a souhaité tout de même être embaumé et son corps sera exposé, ce qui montre bien quand même le souci de la postérité qui était le sien.
Dans le salon qu'on a vu tout à l'heure.
Voilà, dans le salon, vous voyez, dans son habit d'académicien, avec son épée sur le côté, etc., de manière extrêmement solennelle. D'une certaine façon, c'est presque le seul moment où il s'est vraiment pris au sérieux.
Et c'est lui qui a demandé à être enterré ici, alors?
Il voulait de toute façon être enterré à côté de la chapelle. Alors, j'avoue que je ne connais pas le détail de la procédure, des procédures qui ont été, qui ont entouré cette inhumation dans la chapelle elle-même. Mais de toute façon, c'était une chapelle qui n'était pas consacrée au culte.
Merci beaucoup Serge Linares de nous avoir éclairé sur Jean Cocteau au cours de cette visite de sa maison de Milly-la-Forêt. Elle est dirigée par Pascal Léauté, que je remercie également chaleureusement d'avoir participé et de nous avoir ouvert les portes. Tout de suite sur France Culture, c'est la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour la compagnie, Valérie Rouzeau, notre auteure, poète, cette semaine, en sens averse, a aussi préfacé avec affection « Soir de la mémoire de Christian Bachelin », son ami Ténébros. C'est à lui, à Pierre Michon, à Éric Satie qu'elle dédie « J'aime aller dans la rue avec en tête un chant, chant de petit oiseau qui possède en son cœur minuscule, un très gros nuage lourd, un énorme nuage comme un hippopotame tellement gonflé de l'eau des fleuves dont il est le cheval impensable, le cheval impossible dans une tête de fauvette, dans une tête de linotte ou de bergeronnette, bergère honnête aimant son ciel plein de moutons, écoute s'il pleut, écoute et goûte ma chanson, la chanson sortie de ma caboche qui grelotte en forme de souvenir, en forme de poire, poire de ma soif d'aller sous les nues par les rues, quand la vie minuscule semble vivable encore. Ici, transition, bruitage vintage, bruitage de pellicule et de caméra. Sourions, nous sommes filmés, ne tirons pas cette gueule. La seule bonne gueule qui soit, c'est la gueule d'amour. Et ne nous voilons pas la face, sourions même jaune, nous sommes fichés, acteurs ratés d'époque épique. Porc épique, actrice en rade, il faut nous écraser. Actrice ratée, acteurs en rade, nous aplatir comme des écrans, des paillassons. Planche sans salut avant les clous pour traverser de l'ici-bas à l'au-delà. Si on y croit à l'au-delà, si on y rêve, est-ce qu'on y va et sous quelle forme? Un hérisson bien épineux ou une galette, un billet de banqueroute, une feuille de route. Le poème suivant est un retour dans les annales. L'amour continuera. C'est notre façon de quitter Valérie en l'embrassant très fort. Je pense aux personnes merveilleuses de ma vie. Je pense à vous, mes amis, vous, mes inconnus innombrables. Je pense à Robert Desnos, dont les yeux étaient des perles. Je pense à Rimbaud, le jeune homme vert qui rougissait jusqu'aux oreilles. Je pense à Daubigné, couché avec ses pistolets. Je pense aux personnes à merveille dans ma vie, mes frères loin, mes potes en allés, mais jamais rencontré. Je pense au cœur de ma mère, solitaire. Je pense sur la tête de mon père. Je pense à mes aïeux en randonnion dessous la terre. Je pense à ma grand-mère sempiternelle qui avait le blues toujours dans sa vieille blouse. Je pense aux personnes de merveilleuse à vie. Je pense à leurs coups de main, Je pense à leurs coups de pied, au soleil coupé et abaisement corps. Je pense à leurs coups de rein, je pense à leurs coups de dé. Je pense aux personnes qui me merveillent la vie d'hier à aujourd'hui. Et jusqu'au lendemain, la merveille de leur voix, de leur rire et chagrin. Je pense à eux longtemps, je pense à eux très vite. Je pense à elle aussi, je pense partout à lui. Je pense aux personnes dans ma vie merveilleusement. Je pense merveilleusement aux personnes de ma vie, car je n'oublie personne, personne, et pas même moi. Je pense à tout le monde et m'y trouve comprise. Je pense à moi qui pense à vous et à merveille.
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des poèmes de Valérie Rouzeau.